L'aventurier du jour, c'est Hervé Michel et il a eu 1000 vies. Aujourd'hui, Hervé Michel est un écrivain, romancier, mais avant ça, il a exercé une profession assez spéciale. Il a été chasseur de trésors et il a travaillé en France, mais aussi en Amérique du Sud, à la recherche de différents types de trésors, des trésors de famille, mais aussi des trésors de pirates. Je vous présente donc un chasseur de trésors.
La Fabrique Audio présente... Les aventuriers.
Les aventuriers.
www.lafabriqueaudio.com.
Vous avez une aventure à nous proposer? Une destination à nous faire découvrir? contact@lafabriqueaudio.com.
lafabriqueaudio.com.
Salut Hervé.
Salut Florent.
Merci d'être avec nous. Enfant, tu étais déjà passionné par la littérature et puis par les grandes aventures. Ça a commencé avec quels auteurs? Tu te souviens du premier auteur qui t'a fait rêver?
Mes premières lectures, moi, bien, ça a été Tintin, en fait. Ouais. J'ai appris à lire là-dessus. J'ai appris à lire sur ces livres-là. Robert Stenwyth, dont le nom ne parle plus à personne, certainement aujourd'hui, mais qui a été un grand aventurier, un grand chasseur de trésors. Je dévorais sa littérature. Ouais. Et c'était un gars que j'adorais, et puis il y en a eu quelques autres, voilà, j'aimais bien tous les classiques, Kessel, moi, gamin, je lisais pas de livres de contes de fées, je lisais Kessel.
Jack London,
ouais. Évidemment. Ouais.
Alors, à l'âge de 10 ans, tu rêvais d'être reporter, de courir le monde, à la manière de tes héros comme Tintin, tu l'as cité. Du coup, rapidement, tu as abandonné l'école, le lycée, tu avais 17 ans, et tu t'es engagé dans un bataillon outre-mer, ouais. Histoire d'aller y trouver l'aventure.
Alors, c'était ce qu'on appelait encore à l'époque la coloniale. Quoi. Donc, je suis arrivé là avec des mecs, des tueurs professionnels. Ouais. J'avais 17 ans, j'étais un bébé, quoi. Et j'étais un peu terrorisé. Et puis, voilà, bon, après, je me suis vite rendu compte que c'était pas ma voix. Ouais. Moi, ça bougeait pas assez, en fait, pour moi, parce que comme j'étais un gamin, eh bien, évidemment, il me protégeait un petit peu. Donc, moi, quand je me suis engagé, je voulais me battre, je voulais aller. Et puis, ils m'ont dit, non, attends, petit.
Calme-toi.
Tu vas faire tes armes d'abord. Et puis, voilà. Et donc, j'ai dit, bon, écoutez, moi, alors, à ce compte-là, je vais vivre l'aventure autrement.
Et t'es rapidement revenu à la vie civile. Ouais. T'as exercé de nombreux métiers. Je disais, l'homme aux 1000 vies, parce que t'as été mécanicien. Pilote de stock-car,
ouais.
Incroyable, c'était voilà. Quoi ça?
Ouais, ben, pilote de stock-car, c'était encore une passion. Je bossais à l'époque dans un garage quand je suis sorti de l'armée. J'ai fait un petit peu de tout avant de trouver vraiment ma voie. Ouais. Et puis ben, là, y avait des gars qui venaient faire réparer leur bagnole, et puis leur bagnole de stock-car, ou les faire monter, quoi. Et puis je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer ça, et c'était rigolo, quoi.
Un temps, tu as aussi été détective privé.
Ouais, j'ai travaillé dans une boîte de détective privé. C'était pareil, c'était moi, il me fallait de l'aventure, il me fallait ouais. Des trucs un peu mystérieux, mais à chaque fois, c'était un petit peu décevant parce qu'il n'y avait pas autant d'adrénaline que ce que je voulais. Quoi.
Là, détective privé, j'imagine que tu regardais les amants et les maîtresses ouais. Des uns et des autres, c'était ça. Quoi.
C'est ça, on suivait les maris infidèles. Ouais. Bon, c'était rigolo quand même.
Videur de nightclub également.
Ouais, j'ai fait ça assez longtemps. Ouais. Ouais. Agent de sécurité dans la sécurité privée.
Là, pour le coup, il y avait de l'action.
Ah ben là, il y avait un peu plus d'action. Ouais, ouais. En plus que moi, j'ai été maître chien également. Ouais. Donc, j'étais passionné par... Voilà, chaque fois que je fais un truc, c'est par passion de toute manière.
Et puis alors, tu es devenu ensuite photoreporter, correspondant aussi pour plusieurs journaux et magazines. Je crois que tu es parti dans le monde entier, notamment au Pakistan, en Amérique du Sud pour réaliser de nombreux reportages. Et puis dans ta région natale, tu es de Provence, toi, en France.
Ouais. Je suis de Provence, de l'Île-sur-la-Sorgue. Ouais. C'est mon fief, c'est le fief de mes ancêtres. Et j'en suis super fier. Quoi.
Alors aujourd'hui, tu es écrivain, romancier et on va parler surtout de ton aventure de chasseur de trésors que tu as exercé pendant combien de temps?
C'est difficile à dire puisque mon premier trésor, j'ai cherché à 14 ans. On ne peut pas dire vraiment qu'à un moment, j'ai été plus chasseur de trésors ou j'ai été chasseur de trésors. Ouais. Ça fait partie de moi, de ma vie. Si aujourd'hui, il fallait refaire un truc, je le referais.
14 ans pour le premier trésor cherché et non pas trouvé.
Ah ben, il faut dire que dans ce domaine-là, on cherche plus qu'on ne trouve quand même.
Il y a un côté frustration quand même.
Non.
Quand on cherche un trésor pendant des mois et des mois et qu'il n'arrive jamais,
non. Non, non, moi, c'est pas la découverte qui me plaît, moi, qui me motive. C'est la recherche, c'est vraiment la recherche.
Ah, hein. Ouais.
Et puis après, ben, on trouve pas. C'est comme quand on fait une photo pour un journal, elle est prise, elle est pas prise, mais on l'a faite parce qu'on avait une raison de le faire, quoi.
C'est quoi le moment où il y a le plus d'adrénaline quand tu cherches un trésor?
Bon, alors il faut être honnête, c'est quand on le trouve. Hein, mais ouais. Non, c'est vrai, non, parce que je dis, voilà, je suis pas. Moi, c'est la quête qui compte, mais c'est vrai que la découverte, c'est pas mal aussi. Donc là, ouais, il y a de l'adrénaline. Ou quand on croit qu'on va trouver quelque chose, quand on découvre de nouvelles pistes, c'est une enquête, en fait. Hein. Ouais. Moi, j'ai toujours été dans l'enquête, hein, détective, tout ça, même mécano. Tu cherches les pannes, tu sais, moi, il faut que je cherche quelque chose. Quoi.
Mais on peut en vivre du métier de chasseur de trésors ?
Ah ben, on en a vécu pas mal, il y a plusieurs même, hein, puisqu'on a fait ça. Alors, officiellement, j'avais créé une entreprise qui était à l'Île-sur-la-Sorgue. On a fait ça officiellement donc, pendant 10 ans. Et oui, pendant 10 ans, j'ai quand même alimenté 3 personnes, plus moi.
Il y a un code INSEE qui existe pour chasseur de trésors ?
Ben non, c'est une profession indépendante, en fait. Voilà, moi, officiellement, je vendais du matériel de recherche de trésors.
D'accord.
C'est un peu comme les gars qui avaient fait la rue vers l'or, ceux qui avaient gagné de l'argent, c'est ceux qui vendaient les pelles, tu vois. Et sauf que ben non, en fait, ça s'est pas passé exactement comme ça. On a commencé à trouver, et puis voilà, quoi, en 10 ans, on a trouvé 70 kilos d'or en tout.
Ah ouais.
Ouais. Alors, c'était pas 70 kilos pour nous, hein, parce qu'on avait un contrat, c'était 50. Au début, c'était 70 pour le propriétaire, 30 pour nous, que je divisais en 3.
Le propriétaire, c'était qui?
Ben, celui qui nous embauchait, en fait, parce qu'on faisait. Avec la législation française, on ne faisait pas de recherche de trésors, on faisait des recherches d'héritage. Uh-huh. C'est-à-dire, il fallait que la personne nous demande de découvrir un objet qui lui appartenait à lui ou à sa famille. C'était pas parce qu'un trésor, il faut le trouver par hasard. Enfin, c'est un peu compliqué au niveau de législation et c'est très compliqué après quand tu le trouves. Là, un héritage, c'est à toi. Si ton grand-père, il avait planqué des lingots, ben, ils sont à toi. Il n'y a pas de.
D'accord.
Il y a pas de souci, quoi.
Donc, des fois, tu as des gars qui venaient vers toi et qui te disaient, voilà, moi, je cherche quelque chose qui appartient à ma famille. Si vous m'aidez, vous aurez tel pourcentage.
C'est ça. Ouais. Ah ben, à cette époque-là, c'était pas des gars qui venaient vers moi. On refusait le boulot.
Ah ouais.
Ah oui, parce qu'en plus la télé s'en était mêlée, il y a eu plein d'émissions de télé là-dessus.
Ah ouais, je t'ai vu dans.
On a participé à pas combien d'émissions de télévision. Et non, on refusait le boulot.
Mais que je comprenne un peu, dans une famille, il peut y avoir des trésors qui sont quoi, enterrés dans un jardin.
Il y en a énormément. Il y a plein de trésors. Alors de mémoire, hein, je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est de mémoire. On sait combien il y a d'or dans les banques, ça on le sait,
ouais.
Et on sait combien il y en a à l'extérieur. Ben, il y en a à peu près autant, il y en a en France, non. Je crois qu'il y en a 4500 tonnes qui manquent.
Ouais.
Alors en Europe. 4500 tonnes qui sont dans la nature. Ça, c'est ce que les gens portent sur eux, mais c'est aussi ce qui est planqué.
Mais ça veut dire que c'est des lingots d'or qui sont planqués, ce sont des pièces, des vieilles pièces de monnaie, c'est quoi en fait ?
Alors, les trésors que nous on trouvait, à 95-99%, c'était soit des lingots, soit des pièces de Napoléon, des 20 francs or, ce qu'on appelait la 20 francs or,
ouais.
Qui dataient souvent de la Seconde Guerre mondiale. C'était notre limite pour les trésors. Après, c'était plus compliqué à trouver ou beaucoup mieux caché.
Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces pièces-là une fois qu'on les a trouvées, ces Napoléon ? Ça a une valeur aujourd'hui sur le marché ?
Je regrette de ne pas en avoir gardé quelques-unes d'ailleurs, parce qu'à l'époque, quand on recherchait, je crois que ça valait 160 euros. Maintenant, elles sont à 800, quoi.
Ouais,
c'est énorme, quoi. Et moi, j'avais une entreprise légale, c'est-à-dire tout était déclaré. Donc, quand je trouvais, on avait un contrat. Et puis, je remettais en vente. Je travaillais avec des fondeurs, avec des numismates. Et on remettait en vente ce qu'on avait trouvé, quoi.
Et donc, ça devenait des euros.
Ça devenait des euros, moins l'URSSAF, moins les taxes, moins les charges, machin. Donc, en fait, 70 kilos, ça paraît beaucoup, mais je ne me plains pas non plus, attention, je ne vais pas cracher dans le truc. Mais à la fin, il ne restait quand même pas grand-chose. C'était bien, c'était très largement au-dessus de ce que gagnait un ouvrier ou un cadre moyen, mais c'était pas la richesse absolue, quoi.
Et alors toi, tu as eu des périodes dans ta vie où tu étais assez riche, super riche, et puis tu as eu des périodes où c'était un peu la galère.
Ben, moi, comme je te disais, l'argent, c'est pas mon maître étalon à moi.
Ah ouais.
Moi, ce qu'il faut, c'est que je fasse quelque chose. Quand j'ai envie de faire un truc, même si ça rapporte pas de l'argent ou si ça en coûte, si c'est possible, eh bien, je le fais quand même, en fait. Et donc, effectivement, il y a eu des périodes où j'étais extrêmement fortuné et des périodes... Un peu plus de période où j'étais complètement fauché. Et, oui.
Et c'est ça ton moteur, c'est le côté il peut tout arriver, c'est l'adrénaline aussi.
Et oui, c'est ça. Et oui, parce que quand gamin, comme tout le monde, comme tous les ados, j'ai fait un peu des dépressions, tout ça, relativement. Et j'ai vite compris qu'en fait, une situation catastrophique, elle pouvait se transformer en une situation extraordinaire.
Ouais.
Donc en fait, il ne faut jamais baisser les bras.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, tu pleures, demain, tu ris.
Et ça, aujourd'hui, je crois que tu as 62 ans,
ouais.
Tu arrives encore à te le dire quand il y a des périodes de galère et tout, à te dire « ouais, mais demain, ça sera mieux ».
Ah ben oui, bien sûr. Si tu perds l'espoir, c'est fini, c'est foutu, quoi. Tu fais plus rien.
Il y a combien de chasseurs de trésors en France ?
Alors, faut voir ce qu'on appelle chasseurs de trésors. La manière dont on travaillait à l'époque, hein, parle aujourd'hui, je suis un petit peu détaché du truc, mais on était 2-3 maximum.
À peine.
Quoi, ouais.
Ah ouais. Pourquoi si
peu? Parce que c'était un truc de... Ah, je vais dire le mot, c'était un truc de couillon, quoi.
Ouais.
Les gens, ils croyaient pas, on te rigolait un petit peu au nez, tu vois.
C'est vrai, quand tu disais mon métier, c'est chercheur de trésors, chasseur de trésors, les gars,
ils rigolaient. Lui, il est un peu pas bien dans sa tête, quoi, tu vois. C'était un rêveur et tout. On m'a toujours dit ça, on m'a toujours dit que j'étais un rêveur.
Ouais. Hein. Et c'est vrai ou c'est faux?
Qu'il faut rêver, eh ben carrément, oui, il faut
non,
rêver.
Non, mais toi, t'en es un de rêveur?
Ah, mais moi, je rêve du matin au soir. Ouais. C'est mon fond de commerce en même temps.
Et alors, je te demandais combien il y avait de chasseurs de trésors à l'époque où tu en étais un. Il y en avait deux, donc, dont tu faisais partie.
Trois. Il y avait des gens qui apparaissaient sur le marché et qui disparaissaient.
Et dans le monde, il y a des endroits dans le monde où il y a plus de chasseurs de trésors?
Ah, bien sûr, si tu vas en Floride, dans les Key West et tout, là, évidemment, t'as des pros. Notamment, alors, parce que dans le droit anglo-saxon, c'est complètement différent. C'est un truc qui est reconnu, le chasseur de trésors, dans le droit anglo-saxon. C'est-à-dire, tu peux, par exemple, tu vas en Floride, tu penses qu'il y a un trésor à tel endroit, tu vas voir le bureau des, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le bureau des brevets ou un truc comme ça. Enfin, ouais. C'est pas ça, mais c'est à peu près ce nom-là. Et tu dis, voilà, je veux faire une fouille à tel endroit, tu payes ton truc. Et si tu trouves, tu payes la part à l'État et puis l'autre part est pour toi.
Et en France, par exemple, ça se passe comment? Tu te dis, là, il y a peut-être un trésor, tu l'annonces à quelqu'un, tu demandes l'autorisation à quelqu'un, ça se passe comment?
Non, en France, ça se passe mal. Ça se passera toujours mal de toute manière parce que le trésor, il y a un article qui s'appelle l'article 716 qui dit qu'un trésor, c'est une chose découverte par hasard et sur laquelle plus personne ne peut justifier sa propriété. Donc, si tu penses qu'il y a un trésor, le trésor de l'abbaye de Sénanque, par exemple...
Il y a un trésor à l'abbaye de Sénanque.
C'est le premier que j'ai cherché,
dans
en
le
fait.
Vaucluse.
Un trésor fabuleux.
C'est pas très loin pour ceux qui connaissent pas du Ventoux. Ouais.
Donc, si tu vas le chercher... Tu peux.
Ouais.
Faut pas le trouver parce que si tu le trouves, les ennuis vont commencer en fait.
Ou alors faut pas le dire.
Alors ça,
obligé de le dire.
C'est assez compliqué quand même. Ouais. Moi, je l'ai jamais recommandé parce que j'en ai vu passer les trésors des dizaines et des dizaines. Les mecs, ils disaient sous le manteau, machin, non, j'ai dit, ne fais pas ça parce que là, de toute manière, tu vas te retrouver dans les ennuis.
Ouais.
C'est pas la peine.
Mais il faut aller le dire aux autorités.
Alors, si tu trouves un trésor par hasard, si tu l'as cherché, oublie, on va te le prendre. C'est fini. C'est mort.
Tout. 100%.
100%.
Ok.
Et par contre, si tu l'as trouvé par hasard, c'est-à-dire tu es tombé de vélo, paf, il y avait quelques piécettes et puis tu as creusé là, tu as droit à 50% et 50% revient au propriétaire du terrain. C'est-à-dire si par exemple c'est chez toi, c'est tout pour toi.
D'accord.
Tu as creusé dans ton jardin, il y avait une cassette, voilà quoi.
Ouais.
Donc après, il faut aller déclarer ça à la mairie, qui va déclarer ça à la DRAC, à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, et qui va venir, qui vont saisir ou pas, selon ce que c'est. Et après, ils vont l'étudier et au bout de quelques années, ils vont te dire, bon, tu peux le récupérer ou pas.
Et si ça a beaucoup de valeur au niveau du patrimoine,
là c'est fini.
Ouais.
C'est fini. Et là, on parle de trésor terrestre, on ne parle pas de trésor sous-marin. Dès que c'est dans l'eau, c'est à 100% pour l'État.
D'accord.
Là, il n'y a pas de négociation.
En clair, en gros, être chasseur de trésors en France, c'est quasi peine perdue.
C'est pas la peine, non.
Ouais.
Sauf à chasser des héritages. Ça, c'est différent.
D'accord.
Parce que l'héritage, ce n'est pas un trésor. Ce n'est pas une chose sur laquelle plus personne ne peut justifier sa propriété. L'héritier te dit, voilà, moi, j'ai les achats de lingots d'or. Sur les lingots, tu as des numéros. Pour les pièces, c'est un petit peu différent. Mais s'il y a un bon d'achat de 50 Napoléons et que tu vas trouver 50 Napoléons, il n'y a pas trop de discussion. Et puis, les Napoléons, ça n'intéresse pas forcément les archéologues. Quoi.
Et dans les héritages, c'est quoi le plus gros trésor que tu as trouvé? Alors du coup, on ne parle pas de trésor, j'ai bien compris.
Ouais, ouais.
C'est quoi la plus grosse fortune que tu as trouvée en héritage?
Alors, c'est une fortune qu'on a trouvée. En fait, on n'en a trouvé que la moitié, mais c'était un truc fabuleux. Quoi. C'était pas loin d'ici d'ailleurs, pas loin d'Avignon.
Ouais.
Une famille qui vendait une maison, mais une ancienne propriété où on faisait du vin. Et qui nous avait demandé, la maison allait être vendue. Le grand-père avait, ou le grand-oncle, je ne sais plus, avait caché... deux pots, un pot avec, il y avait 200 Napoléons et un autre où il y avait 500 pièces de $20 or. Donc ça représentait à peu près un demi-million d'euros à l'époque.
Ouais.
Et le neveu savait que ça existait parce que l'oncle lui avait montré. Il lui avait montré où c'était caché sous les marches d'escalier. Sauf que L'escalier était en mauvais état, donc le grand-oncle ou l'oncle a retiré le pot, il est allé le planquer quelque part pour que les ouvriers viennent réparer l'escalier et comptent le remettre après. Mais il est mort d'une crise cardiaque.
Ah ouais.
Et il n'avait pas dit à qui était ce. Où il avait replanqué le trésor. Voilà. Donc on a passé plusieurs jours dans une propriété assez immense, on a trouvé des trucs sous des. Comment ça s'appelle? Les foudres, là.
Ouais.
On a trouvé des liasses de billets, mais énormes, quoi, mais qui étaient dévaluées, enfin qui n'avaient plus cours. Et dans un mur, on a découvert le pot de Napoléon avec, je crois qu'il y avait 200 Napoléons dedans. Voilà, ça c'était un des plus gros trésors qu'on a trouvé, 200 Napoléons, ça commençait à
oui.
faire pas mal. Quoi.
Eh oui.
Et puis, les 500 dollars or, là qui représentaient à l'époque, c'était 1000 euros pièce. Quoi.
Uh-huh.
Ben là, on l'a pas trouvé. C'était tellement immense, on était tellement pressé par le temps qu'on n'a pas trouvé.
C'est quoi les outils d'un chasseur de trésors? Parce qu'on imagine, dans l'imaginaire qu'on a, c'est une pelle, c'est un seau pour éventuellement laver les lingots d'or qui y arriveraient. C'est quoi la réalité?
Alors, la réalité, c'est le premier outil le plus important, et à la limite, si on n'en avait qu'un, ça devrait être celui-là, c'est la connaissance des trésors, en fait. Pendant plusieurs années, j'ai bossé pour des magazines spécialisés et j'ai enquêté sur des trésors qui avaient été découverts, mais d'un point de vue journalistique.
Mmh.
Et donc là, moi, j'en ai fait des statistiques. Je savais à l'époque comment le notaire parisien cachait, comment le paysan de Lozère cachait, et on partait là-dessus. Alors ça, c'était pas une science exacte, mais très très souvent, on commençait par ça. En fait, si on savait pas qui était la personne, on faisait d'abord ce qu'on appelle un profilage. Et là, je me mettais, moi, à la place de la personne. Je demandais le plus de renseignements possible.
Ou je planquerais le trésor si j'étais à sa place.
Exactement. Et comme je savais que les gens qui étaient plutôt religieux cachaient de telle manière, les gens qui étaient plutôt avares cachaient de telle manière, on commençait par ça. Et après, ben, les outils, parfois le détecteur de métaux, parfois juste en tapant contre les murs ou en allant vérifier les endroits qui m'intriguaient.
C'est super intéressant, ça. En fonction du profil, tu sais où plus ou moins la personne est censée avoir caché un trésor. Ouais. Par exemple, tu disais une personne avare. Où est-ce que les personnes avares cachent les trésors?
La personne avare, attention, je dis, c'est pas une science exacte. Hein,
ouais.
Mais la personne avare va souvent cacher à un endroit où elle a un contrôle sur sa cassette, en fait.
Okay.
C'est-à-dire que ça va être la chambre... ça va être un endroit où les yeux extérieurs ne peuvent pas arriver, c'est-à-dire la cave. Et la cave, très souvent, parce qu'on fait tous un peu les mêmes trucs, dans les angles, et on repérait, nous, quand il y avait des morceaux, des tessons de bouteilles. Parce que les gens cachaient dans l'angle de la cave et cassaient des tessons de bouteilles dessus pour que les gamins n'aillent pas foutre les doigts dedans.
Ah ouais.
Ouais. Voilà. Les notaires cachaient plutôt dans leur bureau et plutôt sous les parquets.
Sous les parquets,
ouais. Okay. Les notaires, bon, c'est, mais attention, hein, ce sont vraiment que des statistiques.
Ouais.
Et puis des fois, c'était pas du tout ça, mais souvent quand même, ça tombait pile quand même.
T'en as d'autres comme ça de
profils? Oui, les paysans cachaient beaucoup dans le poulailler.
Ouais.
Dans le poulailler, et en général...
Sous la paille?
Non, enterré.
Ah ouais.
Et en général, alors ça dépend ce que c'était, mais en général, quand la chambre de celui qui avait caché, généralement le grand-père, était en vis-à-vis du poulailler.
Okay.
Parce que quand tu vas cacher dans un poulailler, essaie de rentrer la nuit quand il y a les poules, tu es tout de suite averti que quelqu'un rentre dans le poulailler.
Eh oui.
Et si c'est en face, le gars sortait le fusil et il allumait tout ce qui sortait. Quoi.
Ouais. Ah, c'est génial.
Ouais.
T'as d'autres profils comme ça qui te viennent en tête?
Non, là, comme ça, qui me viennent en tête. Si, les gens religieux. Alors, les gens qui avaient une connexion avec la religion, eux cachaient toujours... très souvent sous la protection d'un saint. Par exemple, quand on savait que c'était quelqu'un qui était pieux, machin, ça, eh ben on cherchait les statues de saints ou les anciennes niches où il y avait eu des saints, et en général, c'était sous la protection du saint.
D'accord.
Voilà. On a trouvé dans une statue aussi, une fois.
Donc, genre dans la Vierge Marie, la statue de la Vierge Marie, tac.
D'ailleurs, ça a été une grande découverte.
Ouais.
La Vierge d'Or, ça avait été filmé ça par France Télévisions, je ne sais plus.
C'était où?
Ben c'était là dans le coin aussi, là.
Ouais,
on pas
dans le Vaucluse.
Enfin, ça date d'il y a quelques années quand même, donc aujourd'hui il y a prescription.
Et il y avait quoi dans cette Vierge?
Et ben en fait, dans la famille, il y avait une légende qui disait que le grand-père ou l'arrière-grand-père, je ne sais plus exactement, pendant la guerre, avait caché une Vierge en or. Alors moi, ces histoires-là, je fais attention parce que les légendes se transforment toujours un petit peu de la même manière. Et donc, on va chercher cette Vierge, je m'en renseigne un peu, puis là, on a passé du temps parce que c'était immense. Donc, au détecteur de métaux, effectivement, dans le poulailler, on a trouvé une vierge qui n'était pas en or, qui était en plâtre, mais qui était fourrée, en fait, de pièces. C'était de l'argent, c'était des pièces d'argent. Donc, la vierge dans laquelle on mettait la tirelire, en fait, ça s'est transformé au fil des générations en vierge d'or. Voilà. Il faut faire gaffe à toutes ces légendes familiales, parce que très souvent, ça te révèle quelque chose, en fait.
Ça veut, par exemple,
la vierge d'or, tu peux être certain que quelqu'un avait planqué dans les statues ou des trucs comme ça, voilà, avait planqué les économies. Alors, ce qu'on avait trouvé à l'époque, c'était assez... Enfin, pas minable, parce que c'était bien quand même, mais c'était des pièces d'argent.
Ouais.
Bon, ça représentait 300 euros, quoi. Sauf qu'à l'époque, ça représentait beaucoup plus. Et cette statue-là avait été était dans une niche sur la façade, et le grand-père ou l'arrière-grand-père, je ne sais plus, l'avait déplacé au moment de l'arrivée des Allemands, parce qu'il avait peur d'un mitraillage. C'était sur la façade de la maison, on y accédait par sa fenêtre, donc personne n'aurait jamais eu l'idée de penser que le magot était là dans la vierge, sauf qu'un jour, un mitraillage, le truc éclate et tout l'argent tombe. Oui.
Toi, tu penses qu'en France, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de trésors à trouver ?
Ah, mais c'est énorme, bien sûr. D'ailleurs, je ne comprends pas que personne ait pris la suite après qu'on a arrêté, parce qu'il y a... Il y a plusieurs centaines de millions d'euros à découvrir, hein, c'est certain.
Toi, t'as arrêté pourquoi, en fait ?
Parce que, d'une part, il y avait des nouvelles lois qui sont arrivées, j'ai arrêté mon entreprise, et puis je me suis lancé dans l'écriture, voilà, et puis mon associé de l'époque est décédé, c'est lui qui me soutenait beaucoup dans ces trucs-là. Donc, à un moment, ben, il n'y a plus la force, quoi, de continuer. J'ai vraiment arrêté au moment du confinement, en plus. Donc, un peu avant, ça, j'avais arrêté. Mais c'est la mort le décès de mon associé, en fait, qui a, voilà. Parce que moi, je faisais ça pour m'amuser.
En fait,
quand on s'engueulait, c'était du pagnol, quoi. On a fait tellement et tellement de choses qu'à un moment, je me suis retrouvé tout seul. Bon, même si j'avais quand même une équipe qui attendait, mais c'était pas des décideurs, c'était des gars qui étaient là, qui étaient super motivés et sur qui je pouvais compter. Mais vraiment, le couple, c'était mon associé et moi.
Et par exemple, l'équipe avec laquelle tu bossais, c'est quoi, des profils de gens qui vont plonger, des profils de gens qui sont un peu des maçons et qui vont aller creuser, c'est qui?
Je travaille vraiment avec deux gars, en fait.
Ouais.
Et il y en a un, c'était un bulldozer. C'était le gars, on lui disait, il y a un trésor là, il te prenait la masse, il te démontait un mur de 3 mètres. Quoi.
Okay.
Et l'autre, c'était un gars pas très grand, mais alors extrêmement futé, qui était un bricoleur, mais de génie. Il nous fabriquait du matériel pour les sondages et trucs comme ça. Il avait toujours un truc extraordinaire à mener. Donc avec ces trois-là, plus mon associé, bien... On parcourait un petit peu la France à cette époque-là.
On parlait des légendes à l'instant avec les familles qui ont des histoires qu'elles ont entendues du grand-père, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, etc. Quand il y a des histoires comme ça dans les familles, toi, celles et ceux qui nous écoutent là par exemple, tu leur recommandes quoi ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour trouver l'éventuel trésor derrière la légende ?
Alors déjà, il faut vraiment s'attacher aux légendes familiales parce qu'il y a toujours quelque chose. Alors attention, c'est souvent amplifié. Hein.
Oui.
Donc là, la Vierge d'or, il y avait 200 euros de pièces en argent dedans.
Okay.
Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même. Hein. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, déjà, il faut savoir un petit peu l'histoire de sa famille. C'est vachement important. Hein. De toute façon, connaître l'histoire, même si c'est de l'histoire générale, c'est très, très important.
Ouais.
Et voilà, il faut savoir si c'est plausible. On avait des pistes, nous, par exemple... Quand on nous parlait de faire une intervention chez une personne qui, pendant la guerre, avait eu un métier de bouche, on y allait automatiquement, parce que c'est des gens qui ont fait énormément d'argent pendant la guerre.
Okay.
Les gens qui avaient accès à l'énergie aussi.
Ouais.
Voilà. Et ce qui s'est passé pendant la guerre, c'est qu'il y a eu du marché noir, hein, on le sait.
Ouais.
Et ces gens ont fait du marché noir. Hein. Sauf qu'à la libération, le gars qui en avait vendu un steak pour 2 pièces d'or, il n'aurait peut-être pas été content.
Ouais.
Et ça pouvait mal tourner parce qu'à la libération, il y a eu des règlements de compte.
Ouais.
Et donc...
Donc
on cachait en disant bon, on sortira ça dans quelques années. Et puis la mort, elle fait pas de distinction, hein, voilà quoi. Ou des fois le coup pourrait tomber. Et donc ces trésors restaient là orphelins parce qu'à l'époque c'était souvent les hommes qui étaient les chefs de famille, hein, et souvent les plus âgés, et ils faisaient pas confiance au reste de la famille, hein, donc ils planquaient le magot, mais il y a qu'eux qui savaient, hein, parce qu'ils pensaient peut-être qu'ils allaient vivre éternellement, quoi.
Dans ma famille, par exemple, on parle souvent de bons russes qui avaient été cachés. Ça a plus de valeur, ça, non. Les bons russes.
Alors, non, mais il y a quand même des numismates et des amateurs qui les rachètent, mais évidemment, ça avait été une grosse arnaque. Il y a plein de gens qui ont perdu leur fortune là-dessus.
Parce que les bons russes, donc c'était pendant la guerre, la Russie, qui, l'URSS à l'époque, qui proposait en fait qu'on leur prête de l'argent, ils donnaient un petit bon et puis on récupérerait ça un jour.
Voilà.
Et en fait, ce jour n'est jamais arrivé.
Et ça, on en trouve encore des bons russes dans les greniers, les trucs comme ça. Ça se rachète, mais ça se rachète style 1 euro le truc.
Ça ne vaut pas grand-chose.
Bon, si on en a 5000, c'est toujours bon.
On parlait des outils, donc tu nous disais que finalement le meilleur outil pour chercher un trésor c'était l'intellect, ça.
Ouais, absolument.
Y a d'autres choses, parce que là par exemple les bons russes, concrètement, c'est pas des choses qui sont en métal, c'est pas des choses qui sont en argent ni en or, ce sont des papiers, quoi.
Ouais, bien sûr.
Comment on cherche un papier, parce que autant je peux comprendre le côté on a une machine, un détecteur de métaux, ok, mais là quand on cherche des trésors en papier, ça se fait comment, la recherche?
On peut imaginer une cache quelque part et puis aller vérifier tout simplement.
Donc c'est que l'intellect.
C'est que l'intellect, mais en même temps, il faut toujours se mettre dans la place des gens qui ont caché un trésor. Voilà. Est-ce que si tu as des bons russes, tu vas les enterrer dans la terre nue? Non, tu vas les mettre dans une cassette ou dans un truc comme ça.
Ouais.
Donc il y a quelque chose qui va sonner, il va forcément y avoir une serrure ou une clé ou un truc comme ça qui sonnera. Voilà.
Ouais.
Mais dans les maisons, le problème est un peu différent, parce que dans les maisons, ça sonne partout. Tu ne peux pas utiliser un détecteur dans une maison. Donc là, on avait des détecteurs spéciaux très faibles. L'erreur de ceux qui venaient, qui faisaient un peu des trucs comme ça, c'est qu'ils achetaient du matériel super puissant. Sauf que dans une maison, c'est mort, ça ne sert à rien.
Bah ouais.
Il faut le matériel le moins puissant possible, en fait. Ouais. Et pour détecter une cassette, après, il faut réfléchir. Ton mur fait un mètre. Le trésor, il peut pas être emmuré à 2 mètres. Sinon, il serait dehors. Donc, il est au maximum emmuré, s'il fait un mètre, à 50 cm. Quoi, voilà. Ouais. Donc, il faut savoir régler le matériel. Mais ça, c'est vraiment de la petite technique.
Alors, pour trouver les trésors de famille, les héritages, donc ça, les gens vous appellent, ok. Mais quand il y a d'autres trésors, comment on choisit le lieu? On se dit pas, tiens, on va creuser à cet endroit-là, puis on verra bien ce qu'il y a. C'est forcément qu'il y a une légende, une histoire qui vous a attiré vers un lieu.
C'est-à-dire, en fait, c'était vraiment du trésor de famille. Donc, on étudiait la personne qui avait caché. Alors, des fois, on n'avait pas d'infos. Ben là, on partait un petit peu à l'aventure.
Mais si c'est pas du trésor de famille, si c'est un trésor comme ça?
Ben nous, on cherchait pas ce genre de truc-là. C'était trop compliqué au niveau législation. C'était trop compliqué.
Alors, il y a une recherche de trésor qui a quand même été très marquante pour toi. C'est la recherche du trésor du pirate Morgan. Ça s'est passé au Venezuela. C'était à quelle époque?
C'était en 2011 ou 2012, si je me souviens bien.
Ouais.
La première fois que je suis allé, parce que je suis allé plein de fois au Venezuela, mais c'était en 2011-2012, ouais.
Donc là, on n'est pas sur un trésor de famille.
Ah non, là, c'était un trésor de pirate sur lequel j'avais travaillé pendant très longtemps. Il y avait un peu du budget, il y avait France Télévisions qui s'était associé au truc. Donc là, voilà, quoi, ça, c'était différent.
C'était qui, ce pirate Morgan?
Alors, Morgan, c'était un pirate qui avait... qui était sanguinaire, comme on s'y attend sur les pirates. Par contre, c'était un très mauvais marin. Sur l'eau, il était nul. Voilà, il a fait un naufrage plein de fois. Et par contre, il avait une réputation terrible. Et en 1669, si je me souviens bien, qu'on m'excuse si je dis une bêtise, je crois que c'était 1669, il décide d'attaquer Maracaibo au Venezuela. Sa réputation est tellement terrible que les habitants préfèrent fuir, en fait. Maracaibo était tenu par l'armée espagnole, l'armée s'enfuit aussi. Il avait peut-être 200 hommes, le gars.
Donc, il avait vraiment une légende qui le précédait.
Mais c'était une légende qui était justifiée, en fait. C'était vraiment un sanguinaire.
Okay.
Donc, il arrive à Maracaibo, et ben là, il découvre la ville vide. Et évidemment, les gens avaient emporté leur trésor aussi. Et ça le fout dans une colère pas possible. Et il décide de poursuivre la population et l'armée. Donc, il commence à fréter des charrettes et tout, et il poursuit les gens, et puis il passe dans tous les villages, et il fait des pillages, et il commence à charger les charrettes, à charger. Sauf qu'à un moment, les Espagnols ont dit « Attends, non, ça va pas le faire comme ça ». Donc, ils se sont mis à revers, à sa poursuite. Une autre armée est arrivée. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, il était un peu coincé, il était dans les Andes. Les Andes, c'est pas très facile d'accès.
Ouais.
Et donc, ces charrettes, ça l'handicapait un petit peu. Donc, alors et là, attention, je précise, on est entre l'histoire et la légende, parce qu'il y a des blancs. Donc, les blancs, on est obligé de les remplir avec les légendes qu'on a entendues sur place. Donc, c'est pas du sûr à 100%. Qu'il a attaqué Maracaibo, oui. Et donc là, il décide de planquer le butin et de repartir il contourne les Espagnols. Il arrive, c'était un très mauvais marin, mais c'était un excellent stratège. Il arrive à faire tourner les canons dans un autre sens, par un stratagème, et il arrive à s'enfuir. Ouais. Voilà. Et il n'est jamais revenu au Venezuela.
Et donc vous,
le trésor est toujours en place.
Là, vous entendez parler de cette légende, de ce pirate. Il se passe quoi? Vous décidez de faire quoi?
Alors moi, j'avais traité ça comme une histoire littéraire, en fait. Oui. Donc j'avais fait des recherches. Et puis, à un moment, c'était France Télévisions. J'avais des amis là-bas qui me disaient, si on faisait un truc, si on essayait de... Ok, donc moi, j'avais un correspondant sur place qui venait justement de me dire « Tu devrais venir parce que dans la jungle, dans une rivière, on a trouvé des monnaies. On ne sait pas ce que c'est. Mm-hmm. » Donc, il m'envoie des photos et c'était des ce qu'on appelait les pièces de 8. La pièce des trésors avec la croix dessus, c'était des pièces en argent.
Donc là, ça te met déjà sur
là,
une piste.
Je me dis « Bon, ben là, effectivement, y a un parce que ouais. j'avais repéré cette zone-là. J'avais fait une simulation. Où est-ce qu'il a pu passer ? On a travaillé pendant 2 ans quand même dessus, y compris avec des historiens. Et je me dis, ouais, c'est quand même curieux. Donc, on part avec l'équipe de télé, tout ça. Bon, c'était pour alimenter un petit peu la caisse, quoi. Ouais. Et on arrive là-bas sur place. Donc, on s'équipe, 4x4, on part dans la jungle et tout. On passe, je crois qu'on a fait deux jours de jungle. Mmh. Et on arrive dans ce truc que j'avais repéré, qui s'appelait la Cueva del Pirata, la grotte du pirate. Ouais. Un truc perdu dans la jungle, mais qui avait quand même été aménagé. Il y avait un pont, en fait, parce que même en pleine jungle, il y a toujours du monde. Donc, on arrive là, et là, moi, mon guide vénézuélien me dit, hop, on n'y va pas, malédiction. Il y avait une malédiction qui était inscrite sur la grotte.
C'était une grotte maudite.
C'était une grotte maudite.
Ah ouais.
La malédiction avait été lancée, d'après ce qu'il m'avait dit, mais au moment des pirates, je pense que c'est eux qui avaient lancé une malédiction
pour que personne n'y aille. Pour que personne n'y aille,
ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, nous, on y rentre. Lui n'a pas voulu rentrer. Donc, je me souviens, il y avait un petit ruisseau qui passait devant. Ouais. On descend et puis on fait 1 kilomètre sous terre à peu près, avec la terre qui bougeait par moment parce qu'il y avait des tremblements de terre. Un ciel magnifique à l'extérieur, enfin la jungle quoi. Et donc, on arrive dans une grande salle voûtée. On avait des lampes et tout. Hein. Une grande salle voûtée, enfin naturelle, une grotte naturelle. Et là, il y a une rivière qui coule au milieu et qui va se jeter. On entendait le siphon, ça va se jeter dans un siphon. Mmh. Et en calculant l'orientation, c'était de là que provenait la rivière où on trouvait des monnaies. Donc le truc n'était pas bien compliqué à comprendre. Il y avait quelque part des monnaies qui étaient dans des coffres en train de pourrir. Quand il y avait des coups d'eau, ça les emmenait et ça passait dans le siphon et ça se retrouvait dans la jungle. Bon. Donc je commence à fouiller, j'avais un détecteur de métaux à fouiller dans la grotte. Et là, je trouve des monnaies, des fameuses monnaies, des pièces de ce qu'on appelait. Alors c'était des pièces de 4 et des pièces de 8. Ouais. Et je trouve des boucles de chaussures de marin. Voilà, donc on a commencé à... Et sauf qu'à ce moment-là, il fallait explorer les galeries qui partaient peut-être sur des kilomètres, c'est complètement inexploré.
Oui.
Et là, on entend un espèce de grondement, et j'avais de l'eau à peu près jusqu'aux chevilles quand j'étais dans la... Et d'un seul coup, je me retrouve avec de l'eau jusqu'aux genoux, puis de l'eau jusqu'à la moitié de la cuisse.
Wow.
Et là, tout le monde commence un peu à paniquer, ça sent mauvais. Quoi.
Là, t'es dans un film Indiana Jones.
Ouais, l'eau montait très très vite. Et donc, on part en courant parce que c'était ça ou voilà quoi. Et d'ailleurs, on a les images du caméraman qui porte sa caméra et on nous voit courir comme des fous en essayant de ne pas se fracasser contre la tête, contre la roche.
Oui, parce qu'en plus, il n'y avait pas une bonne luminosité, j'imagine.
Et non, on n'avait que des lampes, lampes torches. Ouais. Et donc, je voyais, moi, j'étais passé en dernier et je voyais l'eau qui montait, mais à une vitesse folle quoi. Donc, l'eau montait. Et quand on arrive près de la grotte qui était en dévers, je vois de l'eau qui rentre par-dessus. En fait, le petit ruisseau, il y avait eu certainement un orage tropical qui avait éclaté peut-être à 10 ou 20 kilomètres de là, parce que le ciel était toujours bleu. Mais le ruisseau avait gonflé d'un seul coup, il rentrait dans la grotte, en fait.
Wow.
Donc, on était pris par l'arrière et par l'avant. Et on a réussi à sortir, puisque on est là, il n'y a pas eu de mort. Hein. Et on a réussi à sortir au dernier moment. Là, le guide était furieux complètement, en disant, tu vois, la grotte, ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas été inondée. Vous rentrez, vous foutez le bordel là. Je veux plus. Non, moi, on laisse tomber les gars. Hein, c'est... Voilà. Et donc, la grotte est restée inondée pendant quasiment une année, ce qui n'était jamais arrivé.
Ah ouais. Ouais. Donc du coup, vous ne pouviez plus y retourner.
On ne pouvait plus y retourner, ouais, ouais. Il a fallu y aller en scaphandre et tout, ouais, mais on n'avait pas les moyens. Quoi, ouais. Hein. Et puis ben, après, on a quitté le Venezuela et puis il y a eu des tensions politiques et tout. On n'a pas pu y retourner. Et puis moi, j'avais, à l'époque, je ne faisais pas ça en pirate, c'est-à-dire que j'étais en collaboration avec les services archéologiques de l'État de Mérida. D'accord. J'avais l'autorisation d'aller chercher, autorisation complète. Et puis les gens ont changé, après, voilà quoi.
Attends, t'es en train de nous dire que là, le trésor, il n'a pas bougé, il est encore là-bas.
Il n'a pas bougé, je pense qu'il est en train de pourrir dans des caisses. Au fur et à mesure, il se déverse dans la rivière. D'ailleurs, il y a des gars qui vont régulièrement faire la chasse aux pièces.
D'où les pièces qui avaient été retrouvées, les premières
pièces
qui vous ont mis sur la piste.
C'est la pièce qui avait été retrouvée. Ouais. En fait, ça arrive assez souvent, on l'a vu dans plein de cas. Quand on retrouve des pièces dans une rivière, en fait, c'est qu'il y a un dépôt au niveau de la source, et quand la source remonte, et ben ça emmène les pièces. On a trouvé un gros trésor comme ça à Fontaine de Vaucluse, 1600 pièces antiques, et c'est un trésor qui était remonté comme ça. En fait, c'était là c'est un peu différent, c'est des pièces qui avaient été jetées au fil des siècles, et sauf que la source, la résurgence, quand elle sortait, elle expulsait des pièces. Quoi.
Tu crois que cette grotte maudite en lien avec le pirate Morgan, c'était une vraie caverne d'Ali Baba ?
Ah ben j'en suis convaincu, puisqu'on a trouvé les pièces, on a trouvé les chaussures de marin, donc je pense que les gars, à l'époque ils n'avaient pas peur, ils sont rentrés là, ils ont planqué, sauf que les galeries c'était vraiment inexploré, on n'avait pas de carte, on n'avait rien, et d'ailleurs la responsable de l'archéologie m'avait dit que là c'était complètement inexploré, il aurait fallu faire peut-être, je sais pas, 1 km, 2 km, 5 km, dans des galeries complètement inondées, dans des galeries où la terre bougeait sans arrêt, il y avait des trucs qui tombaient du plafond.
Et d'après toi, il y a moyen que des pirates aient même succombé, comme vous auriez pu succomber avec la montée des eaux, on peut retrouver peut-être des squelettes de pirates là-bas?
Oui, enfin là, depuis le temps, non, parce que là, dans une grotte humide comme ça, mais enfin, c'est pas impossible totalement, c'est peu probable. Mais par contre, ce qui est probable, c'est que, à mon avis, hein, si le capitaine, si Morgan est rentré dans caché le trésor avec ses hommes ne sont pas ressortis. Hein.
Ok.
Ah ben oui.
Donc ils sont encore là-bas.
Ah ben là, oui. Bon, sauf que là, avec les bestioles et tout, le squelette qu'on retrouve, c'est rare quand même. Ouais.
Et il peut y avoir, donc tu nous as dit des chaussures de pirates, ok, des pièces d'or également, il pourrait y avoir des colliers de perles, des trucs comme ça, des dents d'or.
Tout ce qu'ils ont volé au fur et à mesure en remontant vers les Andes en fait. Hein. D'ailleurs j'ai une petite histoire qui est connexe à ça, c'est que il y a un curé qui m'avait demandé justement de venir faire une recherche dans l'église parce que les pirates étaient passés là, et il y a quelques années plus tôt il y a une paroissienne qui en cherchant derrière l'église avait trouvé une assiette en or.
Ah ouais.
Ouais, donc il m'a dit de venir chercher, le gars était partant, hein, il fallait qu'on pouvait démonter l'église, hein. Sauf que derrière au fil des siècles ils s'en sont servis de décharge, et donc j'ai sorti des tubes de dentifrice et trucs comme ça, donc c'était...
Toi, il y a encore des trésors qui résonnent comme des rêves inaboutis, évidemment, des trucs que tu aurais vraiment aimé trouver toi-même.
Un notamment.
Lequel ?
Le San José. Le San José, c'était un bateau espagnol qui a coulé, enfin qui a été canonné, pareil au large du Venezuela, je crois, de la Colombie. Et ce bateau-là, c'était le bateau le plus recherché par les chasseurs de trésors. Parce qu'il y avait une fortune colossale, on savait exactement ce qu'il y avait dedans. Voilà. Et il a été retrouvé récemment, là, mais il est hors de portée des plongeurs, il faut y aller en sous-marin, tout ça. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quelques années, j'ai été opéré pour un truc assez banal comme ça, donc une anesthésie. Et pendant mon anesthésie, j'ai rêvé de ce trésor-là. Et au moment où je me réveille, j'ai passé pour un fou, au moment où je me réveille, je dis « Non, non, rendormez-moi parce que j'ai trouvé le truc, mais j'ai oublié de noter les coordonnées. »
Et tu penses que vraiment dans ton rêve t'avais le bon
non,
lieu?
Non, parce que je venais de lire des trucs là-dessus et tout, donc j'étais obsédé par ce truc-là. Le San José, c'était voilà, sauf qu'il a été trouvé, mais il n'a pas été récupéré encore.
Et il y a effectivement des moments où il y avait des trésors qui étaient devenus une obsession pour toi et tu en rêvais jour et nuit.
Non, alors obsession, non, on peut pas dire ça, mais non, c'était pas une obsession. Moi,
Ouais.
ce qui m'intéressait, c'était la quête, la recherche. Obsédé, non, j'ai jamais été vraiment obsédé. J'étais motivé,
Ouais.
mais pas au point de devenir fou, quoi, comme certains le sont devenus.
Il y a une histoire aussi de l'une de tes recherches de trésor à Madagascar
Ouais.
qui finalement n'a pas abouti, mais là aussi, tu n'étais pas loin du trésor.
Oui, ben, les trésors, en fait, il y a beaucoup plus de recherches que de découvertes, hein, dans les trésors. Faut pas rêver, hein. Souvent, on cherche ça pendant des années et des années, certains, hein, et puis ça aboutit pas, quoi, hein. Donc oui, à Madagascar, effectivement, j'ai un brevet d'instructeur de plongée, donc un club m'avait demandé de venir parce qu'il y avait une histoire avec deux pêcheurs à l'époque, là-bas. Ils sont extrêmement pauvres. Et deux pêcheurs qui avaient fait une fortune colossale d'un seul coup, donc il y avait suspicion de découverte de trésors. Puis Madagascar, des épaves, il y en a tous les 30 mètres, hein,
Ouais.
et donc je suis parti là-bas. Et donc le matin, ben, on faisait les plongées, et puis l'après-midi, ben, on allait rechercher un peu voilà, on a fait une enquête pour savoir un peu quelle était la zone de pêche de ces gens qui étaient décédés depuis assez longtemps déjà. Et on a découvert leur zone de pêche. On est allé plonger régulièrement, et là, ben, au détecteur sous-marin. Puisque là-bas, on peut utiliser un détecteur sous-marin, ben, on a localisé les canons. J'ai trouvé du bois qui n'était pas local. J'ai envoyé ici en France à un ami qui s'appelait Jean-Pierre Joncheret, qui était un archéologue extrêmement réputé, et qui m'a dit, ouais, non, c'est bon, Galion, vas-y. Hein. Sauf que ben, c'était un peu compliqué, on n'a pas pu.
Compliqué parce que...
Alors, ben, c'était compliqué parce que Madagascar, si vous voulez, si tu veux, si tu sors Tu peux sortir des poteries, des trucs comme ça passera à crème, ils n'en ont rien à faire. Par contre, si tu sors de l'or avec l'état de pauvreté, ton espérance de vie est de 3 minutes à peu près.
Ah
Ouais,
ouais.
donc,
Mais ça, tu le savais avant d'y aller.
oui, je savais avant d'y aller, mais
Et donc,
j'y suis allé pour
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 l'adrénaline.
l'adrénaline, en fait. Et puis, il y avait un truc qui était curieux encore là-dessus, c'est que il y avait, quand on a trouvé la zone, il y avait des poissons-pierres. Poissons-pierres, c'est un poisson extrêmement
Ouais, faut
venimeux,
pas le toucher, quoi.
c'est un choc immédiat, hein,
Ouais.
et c'est un poisson qui est plutôt solitaire. Et là, il y en avait des bancs complets qui étaient posés à l'endroit où mon détecteur sonnait. Donc, déjà, pas question d'aller y foutre les doigts.
Parce que
Et
là, t'étais
puis
en plongeur, hein.
là, j'étais en plongée,
Ouais.
ouais, c'était à une vingtaine de mètres de profondeur.
Ah ouais.
Et puis là, donc, pas question de toucher. Et puis, pour excaver un trésor sous-marin, ça demande un matériel, mais monstrueux,
Oui,
quoi.
donc beaucoup d'argent,
Beaucoup
donc
d'argent, voilà.
d'investissement,
Donc
ouais.
là, on sait qu'il y a un galion là, mais
Ouais.
des galions, il y en a partout à Madagascar. On sait qu'il y a un truc là avec des canons, c'est certain, la forme, ça ne trompe pas. Et le bois, effectivement, c'était bien du bois qui était expertisé, qui venait du 17e.
Ouais.
Donc voilà, mais des trésors à Madagascar, si on commençait à chercher, voilà, sauf que on ne peut pas sortir de l'or devant une population qui est extrêmement pauvre. Déjà, je trouve ça indécent,
Ouais.
et puis dangereux, quoi.
Quand on est en tant que plongeur comme ça dans une épave, c'est comme dans les films, c'est-à-dire c'est vraiment les mêmes images, on revoit le bateau comme il était, ou alors pff, pas du
Alors,
tout, ça c'est un imaginaire.
tout dépend de l'épave. Si c'est une épave qui a 20 ans, oui.
Ok.
Mais si c'est une épave qui est plus vieille, non. En fait, les épaves, notamment de navires en bois, il n'y a absolument plus rien. Ça se repère, ça. Les épaves, on les repère en traînant un sonar, c'est un sonar à balayage latéral, si je me souviens bien, qui va détecter, par exemple, les masses des canons, les trucs comme ça. Après, en plongeant, on voit absolument rien. On voit juste, dans le meilleur des cas, une petite colline qui est l'endroit où. Voilà, mais quand on fouille, il n'y a plus la coque, il n'y a plus rien,
D'accord,
quoi.
oui, tout a
Il
été
peut
aspiré
rester,
par la mer,
voilà.
quoi. Ouais.
Si dans un milieu vaseux, on peut retrouver quelques morceaux de bois,
Parce que la vase protège le
ça
bois.
protège, oui.
Ouais.
Mais souvent, c'est sous 4, 5, 6, 10 mètres de vase, donc ça veut
Ouais.
dire qu'il faut un matériel, mais énorme, quoi.
Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous pour nous raconter tes aventures de chasseur de trésors. Franchement, c'était passionnant. Si on souhaite te découvrir, alors non pas à travers les trésors, mais à travers tes écritures, tu as écrit plein de romans. Il y a notamment une série de romans policiers historiques intitulés Crimes et complots sous l'Empire. Tu as également écrit des romans à suspense et des romans d'aventure dont l'action se déroule souvent en mer. Hein, ça
Oui,
fait partie
c'est du
de tes
thriller maritime,
passions.
ouais.
Ouais. Et puis, ton dernier ouvrage, ou peut-être l'un de tes derniers, tu vas me confirmer, est de 2024 aux éditions City. Tu l'as écrit sous le nom de Richard Thorne. Ça, c'est un pseudo. Ça s'appelle « Mort de rire ». C'est assez spécial comme littérature.
C'est du cosy mystery.
C'est quoi le cosy mystery?
Eh bien, le cosy mystery, si tu veux, ce sont des enquêtes dans lesquelles l'enquêteur n'est pas un professionnel. Mm. Le crime n'est pas violent, c'est pas le centre de l'histoire, de l'intrigue. Ouais. Et c'est basé en fait sur les indices. Et c'est ce qu'on appelle des enquêtes à la manière d'Agatha Christie.
Huis clos.
C'est un huis clos, ouais. Exactement, avec peu de suspects. Ouais. Et l'un d'eux est le coupable. Mais c'est pas mon dernier bouquin. Hein. Le dernier, c'est un policier historique, une nouvelle série qui fait suite au premier, ouais. Qui s'appelle l'affaire des conjurés de Roche-Noire.
Okay.
Ce sont des policiers de l'époque napoléonienne qui enquêtent sur des crimes un peu mystérieux, paranormaux.
Et ça, c'est aux éditions ?
Ça, c'est aux éditions Ex Aequo.
Et puis, tu as également une série de podcasts, alors qui n'est pas forcément alimentée régulièrement, ouais. Mais de temps en temps, sur le thème du mystère et du crime. Ça s'appelle « L'écrivain mène l'enquête » à découvrir sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcasts. Hervé Michel, merci infiniment d'être venu jusqu'à nous.
Mais merci de m'avoir invité, surtout.
Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Le podcast Les Aventuriers revient dans un mois. Salut.
Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? contact@lafabriqueaudio.com. Les Aventuriers.
Les Aventuriers. www.lafabriqueaudio.com.
Vous avez une aventure à nous proposer ? Une destination à nous faire découvrir ? contact@lafabriqueaudio.com.
lafabriqueaudio.com.